Sur la réunion précédente, est-ce que vous auriez des interrogations, des questions ?
J'ai noté que l'intellect était essentiellement mémoire.
Oui.
Et j'aurais besoin d'éclaircissement là-dessus. Ça m'a étonné.
Notre mental concret est le mental composite des vies mineures de nos corps. Je vous renvoie en cela à quelque chose de fondamental, à savoir que toute manifestation est composée d'une vie centrale qui donne la vie à des myriades de vies qui constituent sa manifestation. Si vous retenez cette conception, vous aurez bien sûr facilement la distinction entre ce qui est le soi et le non-soi. Je vous rappelle que le troisième postulat de l'absolu, les vies plus avancées incluront dans leur manifestation les vies plus jeunes, et c'est ce qui explique le processus que toute vie appelle à elle des vies plus jeunes pour à la fois assurer le processus de l'expérience, mais aussi permettre à ces vies mineures de progresser. Au stade humain, eh bien, les vies mineures qui constituent nos mondes de manifestation, c'est-à-dire corps mental, corps émotionnel, corps physique, sont en fait des mondes de vie mineure. La particularité de l'intellect, c'est que ce n'est pas directement nous, mais en fait, toutes ces vies mineures que nous sélectionnons, que nous intégrons dans notre manifestation de vie en vie. Sur un autre aspect, là est tout le processus à un moment donné de la vie centrale qui doit se libérer de la dépendance de ces vies mineures. Et par conséquent, lorsque l'être que nous sommes, notre âme ou être permanent qui traverse le règne humain, cet être réalise à un moment donné qu'il a été emprisonné par la volonté de ces vies mineures qui se manifestent par le désir. La particularité de ces vies mineures sur le plan mental constitue l'intellect, en d'autres termes le mental concret, le mental lunaire. Alors bien évidemment, l'être intérieur que nous sommes, petit à petit, prend emprise sur ces vies mineures, au sens où il va les sélectionner, il va commencer à arbitrer la sélection de ces vies mineures, et au fur et à mesure, il va en acquérir la non-dépendance, puis la maîtrise. Les vies mineures du corps mental sont essentiellement mémoire. Et ça s'inscrit, si vous voulez, dans cette notion de l'instinct. Vous avez peut-être pu observer que l'animal, et notamment les animaux domestiques, développent cette capacité mémoire. Et ils développent également un embryon de mental. La caractéristique de notre être intérieur que nous sommes est le mental abstrait, et en tant que mental supérieur, l'intuition, dont la caractéristique est l'accès à la réalité des choses sans avoir à passer par le raisonnement. L'être sait qu'il touche la réalité de tel ou tel sujet. Je vous invite en cela, si vous voulez, à avoir toujours le double regard, parce que vous aurez toujours une lecture de vie mineure. C'est en cela que nous disposons de 12 secondes pour clarifier ce que nous allons nourrir énergétiquement. La libération des vies mineures qui ne sont plus représentatives du niveau de réalisation définit la phase de transmutation. Puis ultérieurement, l'être va passer en comprenant que sa pensée, sa parole, c'est de l'énergie, il va donc utiliser des énergies de vibration qui relève en fait des plans supérieurs. Et il utilisera le vrai, le beau et le bien de l'ensemble. Il faut savoir que dans ce processus de prise en charge de vie mineure, de vagues de vie plus jeunes sorties de l'absolu, eh bien, notre contrat de vie, c'est d'amener en réalité ces vies mineures à s'élever au ciel, symboliquement, et à faire descendre sur la terre le ciel, c'est-à-dire le vrai, le beau, le bien, le pur. L'exercice est simple à la compréhension. Je vous laisse apprécier la difficulté pratique.
On a 12 secondes pour...
C'est notre respiration énergétique. Celui qui donne la vie à la planète, qui est donc une vie grandiose, qui est passée il y a des milliards et des milliards d'années par le règne humain, et qui aujourd'hui est en charge de faire avancer les milliards d'êtres humains et tout ce qui vit sur la planète, sa respiration énergétique est de 12 mois. La respiration énergétique du logos solaire, c'est-à-dire cette vie encore plus avancée qui a en charge un système solaire, sa respiration est de 11 ans. C'est d'ailleurs pour ça que les scientifiques ont constaté que tous les 11 ans, il y avait des ouragans énergétiques sur le Soleil. Voilà. Alors, dans cette respiration de 12 secondes, vous avez, comme toute respiration, je vais vous le montrer physiquement pour que vous compreniez bien. Vous avez donc un intermède, un inspire, un intermède, un expire. Eh bien, nous sommes là en respiration énergétique. Et cela me sert pour rentrer dans le sujet à nouveau d'aujourd'hui, à savoir qu'une méditation est un processus qui, techniquement, va développer cette respiration énergétique.
C'est-à-dire que si dans une situation X, on utilise cette respiration qu'on pratique en méditation, on a le temps, sans que ce soit dirigé par le mental, d'intégrer un niveau supérieur de conscience, de se débarrasser un petit peu des réflexes.
Alors, ce qu'il faut bien saisir, c'est que dans ce processus technique, de caractère bien sûr spirituel, vous avez un processus d'invocation, d'évocation. Ça veut dire que nous allons d'abord avoir nos vies mineures qui vont répondre au sujet. Si nous savons gérer, soit en transmutation, soit en transformation, à ce moment-là, la transmutation est une invocation à notre être intérieur, donc à nous-mêmes en tant qu'être. Et dans cet échange entre les deux pôles, vous avez l'essence du pôle mère qui est proposée au pôle père. Ce qui veut dire que notre être attend de répondre à la situation. Ou il est prisonnier, et par conséquent, il n'y a aucun processus de transmutation, ou il est petit à petit non dépendant, puis maître de la situation, et à ce moment-là, si vous voulez, il y a élévation des vies mineures sur les plans supérieurs. Là, nous sommes dans une phase qui, je dirais, concerne essentiellement l'aspect prière. Quand nous passons à la transformation, nous sommes dans l'aspect méditation. Mais il faut savoir que ce processus est l'aboutissement du contrat de vie. À savoir que lorsqu'un être est arrivé en état, je vais vous surprendre, mais de méditation permanente, ça veut dire qu'il a un ciel intérieur clair. Il est dans cet état que les hindous appellent samadhi, et par conséquent, il est devenu un canal permanent entre les deux pôles de la vie. Ce canal se fermera uniquement s'il se laisse aller à des pollutions. Mais en fait, il est un canal dans un vaste ensemble qui petit à petit réalise en fait le mariage ou planétaire ou solaire ou cosmique. Ne perdons pas de vue que notre réalité, nous sommes la vie, en d'autres termes, l'un, et nous avons à devenir cet un. Alors, là encore, si vous voulez, la compréhension est assez facile, le fait d'assumer est plus difficile. Et tout ça va reposer sur, en fait, des états de conscience successifs, planétaires, solaires, cosmiques. Alors, pour distinguer les aspects, planétaire relève de l'usage conscient de l'intelligence du cœur. L'être s'est qualifié en tant que seigneur de connaissance. Seigneur, ça veut dire celui qui est maître d'eux. Quand il se qualifie au niveau solaire, il est un seigneur d'amour-sagesse. Quand il se qualifie au niveau cosmique, il est un seigneur de compassion, puis un seigneur de sacrifice. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il en est de tout ça? Eh bien, la planète Terre nous apporte l'accès à l'énergie d'intelligence du cœur. C'est l'aspect mère. Le système solaire nous apporte l'accès à l'aspect fils, l'amour, sagesse. Et vous le comprenez au sens où, en tant qu'être, la vie humaine à ce stade ne connaît pas la séparativité. Vous allez dire, est-ce que je suis en liaison avec mon être intérieur et comment puis-je le savoir? Eh bien, principe simple, je ne fais pas autrui ce que je n'aimais pas qu'autrui me fasse et je pratique de justes relations avec les reines de la nature, y compris, bien sûr, l'être humain. Quand un être, et ça concerne donc son être permanent, puis en fait, si vous voulez, il va rejoindre sa racine de vie, dont la caractéristique est qu'elle est liée à l'énergie du premier aspect, c'est-à-dire la volonté divine. L'être va donc s'enquérir progressivement de ce que signifie cette énergie de volonté divine. Vous savez que l'énergie d'intelligence commence à être bon an mal an appréhendée. Du cœur, l'intelligence du cœur un peu moins, l'énergie d'amour-sagesse, ça fait 2000 ans que nous sommes invités à l'appréhender, nous voyons ce que sont encore les difficultés des hommes à intégrer cette énergie. Quant à l'énergie de volonté divine, alors là, disons que pour l'instant, ça interpelle quelques êtres sur Terre. Alors je vous dirais que la caractéristique de l'intention divine, et notamment, bien sûr, de celui qui donne la vie à la planète, mais relayant en ça la volonté des pères cosmiques, c'est le bien de l'ensemble. Sa volonté est la volonté de bien de l'ensemble. Lorsqu'un être ayant intégré, parce que, si vous voulez, tout ça se fait dans un processus ordonné, un être ne peut pas accéder à cette énergie, sauf en toucher les aspects inférieurs, et à ce moment-là, vous avez des dictateurs. Autrement, quand l'être est devenu un seigneur de compassion, eh bien, il peut appréhender, et il lui est donné d'appréhender, au sens où celui qui est en lui, le Père, ouvre progressivement la porte, l'accès. C'est pour ça qu'il y a 2000 ans, le grand guide vous dit « Celui qui me voit, voit le Père ». En fait, quand le Fils s'est qualifié en devenant l'époux de la mère, je parle en termes symboliques, il va devenir le Père. Mais comprenons bien la distinction énergétique, à savoir que le Fils exprime l'intelligence du cœur et l'amour-sagesse. À cela, nous donnons l'appellation spirituelle, énergie spirituelle. Quand l'être appréhende l'intention divine, et que bien évidemment, il va s'ouvrir à servir l'intention du Père, il appréhende la volonté, l'énergie du premier aspect caractéristique du Père, donc volonté de bien de l'ensemble, et là, il est en réalisation divine. Voyez bien la différence d'appellation entre spirituel et divin. Vous comprenez bien que tout ce processus pour appréhender, accéder, s'offrir comme canal va relever en fait de ce qu'on appelle la méditation. Dans ce processus de méditation, vous aurez un lent épanouissement de contact parce que nous touchons à la vie, à l'énergie de grande vie, lesquelles vont gérer cette réalisation. En cela, je vous renvoie à la phrase symbolique, le Père est un feu dévorant. Alors, reprenons bien, première phase, la personne ressent la lumière de son être intérieur et il va vivre une aspiration au contact. Et il va accompagner cette aspiration de ce qu'on appelle la prière, avec bien évidemment les différents niveaux de prière.
Mais la prière toute seule, c'est juste au niveau du mental, ça va.
C'est lié à l'âme. Je suis obligé de distinguer pour la compréhension mentale. C'est toujours pareil. Mais en fait, faisons bien la distinction entre le fait que une prière, c'est une demande, qu'elle soit pour soi-même, pour ses proches, éventuellement pour un idéal. Ce qui distingue la prière de la méditation, c'est que la méditation est un processus de gestion énergétique supérieure. On s'offre comme canal. L'aide du cinquième règne, quand il est réalisé, il rentre dans la facilité de réflexion et d'action. Alors vous allez me dire, je vous renvoie à la phrase d'Ambroise Paré, le père de la médecine moderne, qui avait tout compris et qui disait... Je soigne mon patient et le Père le guérit. Voilà. Nous ne nous compliquons pas, puisque nous ne sommes qu'un point de contact pour celui qui donne la vie à la planète. Il faut simplement que l'on ait cette démarche d'être à la hauteur que nous pouvons tenir en tant qu'ouverture spirituelle ou divine. On peut faire cette distinction-là, oui. En fait, si vous voulez, lorsque vous entrez en phase d'activité de méditation, eh bien, avec toutes les circonvolutions, vous allez rejoindre votre source de vie. Vous y mettrez le temps, selon justement, on va dire... Mais il n'en reste pas moins que ce processus est enclenché. Alors, la particularité, c'est que dans sa saisie pleine, cela veut dire qu'on est un canal. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que nous avons de l'autre côté également des grandes vies qui ont une respiration et des cycles de réalisation. Ce qui veut dire qu'il nous faudra être en phase avec ces rendez-vous. Les énergies ne sont pas disponibles de façon permanente. Il y aura donc des rendez-vous journaliers, des rendez-vous mensuels, moment des pleines lunes, pendant les 7 jours, mais plus précisément les 5. Celui qui donne la vie à la planète, entouré de tous les êtres de la maison du Père, sont en profonde méditation. Alors, pour que vous ayez une idée, bien, le logos planétaire, sa présence terrestre, Sanat Kumara, déroule une méditation continue pendant 7 jours. C'est pour vous donner, d'accord? Alors, je pense que au début, eh bien, il faut avoir l'humilité et la modestie de dire « je ferai quelque chose en véritable continu pendant 7 minutes ». L'important, ce n'est pas la durée. L'important, c'est de savoir que dans cet échange, nous fournissons de l'essence au ciel.
Vous m'autorisez les fautes d'orthographe ?
Bah, si ça peut imprimer dans la mémoire lunaire, n'est-ce pas ? Alors, comprenons bien, le processus de méditation, c'est un processus qui va amener l'être à devenir ce qu'il est. Et par conséquent, au fur et à mesure qu'il effectue ce processus, il va cueillir en évocation les énergies de ses plans supérieurs en fournissant au ciel l'essence mère. D'où la nécessité, si vous voulez, progressive de pureté. Des grands êtres autour du Père recueillent l'essence qui est fournie. Alors, il y a deux stades totalement différents. La prière, si elle est faite en démarche individuelle, elle est strictement limitée à l'âme. Si elle est faite en unité de groupe, elle offre des qualités énergétiques de l'aspect mère supérieur. Parce qu'en fait, nous ne sommes en réalité qu'une unité dans un vaste ensemble. Et c'est là où va apparaître en fait une des caractéristiques de l'être du cinquième règne, c'est qu'il a intégré qu'il n'était qu'une unité dans un vaste ensemble. Alors je dirais que notre force, c'est notre capacité à être unité dans l'ensemble, et la richesse d'un groupe, c'est sa diversité. Il y a 2000 ans, le maître des guides vous dit « Quand vous serez trois, je serai parmi vous ». Il définit par là une science fondamentale qui est la science des triangles. Quand un triangle peut fonctionner, un afflux central d'énergie supérieur aux trois aspects peut affluer. Et là, vous avez en fait toute la perspective de grande vie. Ces grandes vies attendent que des groupes à la fois suffisamment clairs et suffisamment forts se constituent dans le monde, dans les mondes, pour qu'ils puissent passer leur vie. Pourquoi il est difficile à l'être humain d'effectuer ce processus de réalisation spirituelle? Parce qu'il met le feu à ses vies lunaires. L'exemple le plus connu, si vous voulez, c'est les mystiques, qui souvent sont agités sexuellement parce que le processus qu'ils effectuent met le feu à ce qui est encore la boue du lac. À savoir que la méditation, dans sa réalité, est un échange d'énergie de feu. Notre pensée, c'est de l'énergie. Le mauvais usage de notre mental concret, au sens où on le suractive, se traduit par le feu dans la tête. Tout est vie. Tout est feu.
Pardon, quand vous dites quand on est trois...
On n'a pas besoin d'être ensemble présent. Je vais l'expliquer. Mais allez-y, développez votre remarque.
C'est vraiment le chiffre 3 ou c'est du symbolique ?
1. Quand on parle de symbole, on parle d'énergie. Parce qu'un symbole déclenche une réponse des êtres énergie. Quand vous faites le signe de croix, qui n'est pas un signe religieux, c'est un signe universel qui signifie que l'esprit descend dans la matière. Et donc vous avez une onde de vie. Donc c'est l'énergie la plus puissante de l'univers. Par contre, celui qui l'émet, eh bien, il filtre l'énergie qu'il déclenche. C'est pour ça que se faire bénir, il faut être prudent. Celui qui le fait est plus pollué que vous. C'est la même chose qu'un magnétiseur. Un magnétiseur, c'est une batterie. Bon, normalement, s'il est compétent, il va veiller à être un canal pur. Mais cela implique une gestion technique scientifique. Hein, c'est notre corps énergétique qui est rechargé par corps énergétique. qui est normalement plus fort et plus riche. Alors, la méditation, premier principe, ne se pratique qu'en unité de groupe. Donc, élimine la séparativité. Vous ne rentrez pas en alignement d'être, donc d'âme, si vous n'avez pas naturellement conscience d'agir en tant qu'unité de groupe. Sur le plan de l'âme, il n'y a pas ton âme, mon âme. Il y a l'âme. Une goutte d'eau dans l'océan. Cherchez où est la goutte. Première démarche en tant qu'unité de groupe. Alors bien évidemment, si en tant que groupe physique, vous voulez être plus performant, bien sûr, vous visualisez le groupe d'êtres que vous côtoyez. Et naturellement, il faut toujours se relier en tant qu'unité de groupe.
C'est-à-dire que si on médite tout seul dans son coin, il faut quand même...
La distance ne joue pas.
Non, mais il faut quand même penser voilà. À plusieurs personnes en même temps.
Non, c'est des réflexes qui deviennent spontanés. C'est-à-dire que vous dites, en tant qu'unité de groupe, et vous pouvez bien sûr faire référence au groupe d'aide que vous connaissez. Je m'offre comme canal. Donc premièrement, en tant qu'unité de groupe. Deuxièmement, on s'offre comme canal. Est-ce que vous voyez les particularités qui vont distinguer ce qu'est une prière de ce qu'est une méditation? Alors, quand vous le faites pour vous personnellement, eh bien, cela veut dire que vous portez attention à quelques faiblesses, à quelques difficultés, à quelques problèmes qui sont les vôtres. Mais vous pouvez le faire en tant qu'unité de groupe. Simplement, le travail n'est pas le même. Deuxièmement, vous pouvez le faire, mais là, en tant que travail pur de groupe. C'est-à-dire que là, vous vous offrez comme canal à des rendez-vous planétaires, solaires, cosmiques. Comprenons que ce qui est notre processus de réalisation personnelle, vous l'avez au niveau de grande vie. Nous avons à éliminer les vies mineures qui ne sont pas représentatives d'un être de lumière qui use de justes relations. Nous allons nous apercevoir que dans un contact où quelqu'un, on va dire, provoque une agression, nous avons d'abord une réponse lunaire. Alors, comprenez que c'est l'essence qui émerge. Cette essence, elle peut être du coltard, comme elle peut être raréfiée. Est-ce que vous voyez la nuance? C'est-à-dire que l'instinct de nos vies mineures suggère telle réponse. Et nous avons 12 secondes pour dire « on affine ». Mais c'est pour vous montrer, si vous voulez, qu'il y a une réalité énergétique scientifique dans le processus. Je vous ai déjà dit que tout le but de l'instruction, c'est d'amener les êtres à être des fontaines de vie. Tout repose sur la maîtrise de notre seule réalité, c'est-à-dire d'être une fontaine de vie ou de mort. Alors, ne soyez pas étonnés quand dans un premier temps, apparaissent vos habitudes et par conséquent des réponses lunaires. Votre club monte en première ligne, mais on va dire c'est vos élèves. Et à partir de là, vous avez 12 secondes pour arbitrer. Eh bien, au fur et à mesure que vous effectuez ce nettoyage, vous avez une clarification du terrain. Ce qui veut dire que vous aurez de moins en moins d'agents mineurs pollueurs qui vont essayer de survivre. Parce qu'en fait, c'est ça l'aventure. Si vous le transportez au niveau planétaire, eh bien, le logos planétaire effectue un processus semblable. Il le fait comment? Eh bien, au fur et à mesure qu'il attire en élévation spirituelle puis divine les vies mineures que sont les hommes, eh bien, petit à petit, il clarifie. Ce qui veut dire que ces vies mineures que sont les hommes sont représentatifs de ce qu'il est, et à un moment donné, sont écartées les vies qui sont trop lourdes pour être représentatives. Est-ce que vous voyez cette logique? Vous l'avez au niveau des familles. La qualité vibratoire d'un couple, d'une famille, attire à elle les représentants de leur niveau vibratoire. Et au fur et à mesure, tout ça progresse. J'essaye, si vous voulez, de survoler le sujet dans une autre dimension de compréhension. Il faut que vous compreniez que dans le processus de méditation, vous effectuez en fait transmutation, transformation, transfiguration. Quand vos vies mineures, automatiquement, ne bloqueront pas votre clarté d'être, eh bien, vous aurez la conviction que vous êtes maître de la situation. Et qu'en fait, vous êtes votre être intérieur, ce qui veut dire qu'il y aura eu fusion entre la personnalité et l'être que vous êtes. Ce qui veut dire que vos vies mineures sont de la qualité vibratoire de l'être que vous êtes. C'est dans cette facilité à la réponse spontanée, hein, c'est parce que bah, vous voyez très bien qu'il y a dans les relations, il y a différents stades. Si quelqu'un vous traite de con, le stade lunaire, je lui envoie un pain. Si votre mental est un peu tordu, vous allez dire, toi, tu ne peux rien pour attendre, je t'aurai au virage. Ça, c'est plus pernicieux, ça. Et puis, vous avez le stade de l'être accompli qui dit, comment puis-je aider cet être à dépasser l'aveuglement dans lequel il est? Donc, tendre l'autre joue. Eh bien, tout ça, si vous voulez, c'est des réflexes qui sont ou lunaires ou solaires. Alors, bien évidemment, selon le club de lutin de tel ou tel domaine, vous aurez facilité ou difficulté. Quand vous dites de quelqu'un, je comprends pas, qui ne voit pas clair dans ce domaine-là, parce que pour vous, c'est un domaine qui est maîtrisé. Bah oui, mais il faut bien comprendre que chacun, comme on dit, a des chantiers, a un jardin qui n'est pas complètement encore bien tenu et qui a encore des friches. Voilà. Cela dit, c'est pas en traitant les cons qu'on va améliorer la situation. Donc bien traiter et pas mal traiter. Alors au fur et à mesure que l'être a fait ses prises de conscience, à savoir, au départ, il va devenir un être intelligent. Je pense, donc je suis. Puis, il va entrer en contact avec son être et il va pouvoir dire, je suis cela. Je suis à la fois cet être et j'ai à assumer cela. Puis, ayant fusionné sa présence terrestre avec son être permanent, il va dire, j'ai à devenir ce que je suis. Puis il arrivera à fusionner avec le Père, et il pourra dire, je suis devenu ce que je suis. Comprenons que les contrats de vie font que les vies plus avancées ont à amener à leur point de départ, en ce qui les concerne, les vies inférieures. Le Père, celui qui donne la vie à la planète, a comme contrat de vie d'amener les êtres humains au point de départ qui était le sien lorsqu'il a pris le sentier cosmique qu'il a choisi. Et pour le situer au niveau de l'être humain, cela implique la sixième initiation, c'est-à-dire que l'être est arrivé en champ de conscience à être intégré dans l'âme de l'homme céleste, qu'est Sanat Kumara, et par conséquent a en champ de conscience l'autre est une partie de moi-même, et vice-versa. Quand il a cela en instinct divin, je dis bien en instinct divin, ça veut dire que c'est spontané chez lui. Eh bien, il est arrivé au point de départ qu'était l'homme céleste quand il a pris son sentier cosmique. Et cela se répète, si vous voulez, à l'échelle infinie. Le logos solaire a amené le logos planétaire. Alors vous allez me dire, bah oui, mais les différences. Eh bien, si nous prenons l'échelle de l'être humain entre le champ de conscience d'un minéral et l'homme, il y a la même proportion entre l'homme et l'homme céleste. Et entre le logos planétaire et le logos stellaire, vous avez une échelle semblable. C'est pour vous montrer qu'il ne faut pas faire de confusion quant au champ d'évolution de ces grandes vies. Et pour que vous ne soyez pas pris de vertige, je vous dirai que l'absolu dit « ayant créé ces univers d'une poussière de moi-même, je demeure ». C'est pour vous montrer que entre l'absolu qui n'a ni commencement ni fin et l'infini, eh bien, il y a un fossé infranchissable. L'infini a un commencement et une fin, même si pour l'observateur qui est l'homme, cela paraît à l'infini.
L'infini a un commencement et une fin. Voilà, si il a un commencement et une fin, c'est plus l'infini.
Si.
Ben
si.
C'est pas le concept que j'en ai. Moi,
non, tu confonds l'infini avec l'absolu, avec la durée. L'absolu, je reprends les postulats, c'est la durée, donc sans commencement ni fin. C'est l'espace abstrait absolu. Deuxième postulat, il n'y a aucune gloire à être cela. L'absolu émet des vagues de vie, qui deviennent des éternels pèlerins, à tout jamais. Bon, alors, pour clarifier la nuance, je reprends ce qui pour nous est une image accessible. L'absolu, c'est le silence. Les sons émanent du silence. Ça va avoir un certain temps, qui peut être à l'infini. Mais à l'infini pour nous, observateurs. Mais pour une grande vie, il a sa relativité du temps. C'est ce qui a entraîné d'ailleurs une absurdité d'approche. Le temps pour un logos solaire ou cosmique, c'est des jours cosmiques, c'est des années cosmiques, qui n'ont pas valeur de temps terrestre. Une seconde cosmique, c'est 100 000 ans terrestres. Donc ça veut dire que si tu veux, pour eux, ils ont une dimension de vie, une perception de vie qui est différente. Le temps de la fourmi, le temps d'un papillon, tu vas me dire, c'est insignifiant pour nous. Mais eux, ils vivent le temps à leur relativité. Et c'est certainement important pour eux en tant que du temps. Tu sais ce que c'est qu'un atome ? C'est un instant de temps. Parce que il sort de son absolu, il a une durée, et il va retourner. Qu'il soit atome micro, qu'il soit atome macro. Exit, existence. Donc, quel est le temps ? Le temps et la conscience sont liés à la manifestation, c'est-à-dire à ce processus obligé, incontournable, compte tenu du postulat de l'absolu, les vies plus avancées incluront dans leur manifestation les vies plus jeunes. Et la conscience et le temps sont liés à cette union des vies plus avancées, des vies plus jeunes. Hors manifestation, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de conscience au sens relatif où on l'entend. Parce qu'en tant que conscience, tu es pris par la conscience de tes vies mineures et la conscience d'une vie plus grande.
Non, mais ça d'accord, mais donc c'est comme les poupées russes, de toute façon.
L'infini n'a rien à voir avec la durée. Quelle est la caractéristique de l'absolu ? C'est le silence, au sens abstrait du terme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qui est manifesté en tant que vague de vie n'ont rien à voir avec l'absolu. Les sons n'ont rien à voir avec le silence et vice-versa. Si il y avait jonction, ce ne serait plus l'absolu.
Tout dépend de ce qu'on entend, effectivement.
Mais c'est des concepts qu'on est en train de chipoter, là.
Oui, sans doute. Mais disons que pour moi, l'infini, justement, n'a ni commencement ni fin.
Ah non.
Par définition.
Je suis désolé. Non. Un son sort du silence. Il a un point de départ, tant. Il a un point arrivé.
Puisqu'il a un point, justement, je ne sais pas, mais là, son saut de fond, ça peut être pur, effectivement. À partir du moment où tu mets un début, disons, un commencement et une fin, ça ne peut pas être infini.
Si.
Non.
Si. Bah,
sur le plan vocabulaire, non, je suis désolé.
Ah bah oui, mais ça il faut faire attention aux prisons à idées. Tu prends une vie qui donne la vie à cet univers. Ça va être, pour un seul univers, ça va être... Bah, trois... Non mais, si, c'est pour te donner... Non, parce que pour nous, c'est l'infini. Bon.
Non, justement.
311 billions d'années terrestres plus 40 milliards. Bon, mais il y a un commencement, il y a une fin. Quel est le Big Bang? Le Big Bang, c'est quand il y a une grande vie qui se projette dans la manifestation. Donc, elle génère un commencement. Alors, bien sûr, toi, tu es en cours de route, tu te dis, bah attends, l'infini, il y en a derrière, il y en a devant. Mais c'est parce que c'est relatif. C'est relatif, c'est ça.
Pas le concept que moi, que j'ai nous, l'infini, c'est tout. Non, mais ça, c'est... Toi, enfin, pour toi, si tu veux, l'infini, effectivement, disons le même concept...
Pardon.
C'est une question de vocabulaire, c'est tout.
Oui, oui, mais quand tu dis c'est une question de vocabulaire, non. C'est pas une histoire de. Non, c'est sur le fond qu'il faut comprendre la nuance. Mais on en parlera, on va pas bloquer le sujet là.
L'infini dans le langage courant, effectivement, rejoint ce que dit monsieur, quoi. Mais bon, peut-être ça a été galvaudé, je sais pas.
L'infini porte en lui fini. Donc, il y a un commencement, une fin. C'est ce qu'il faut bien faire. Entre, si vous voulez, la durée, ça n'a pas de point de départ, point d'arrivée. Le temps a un point de départ, un point d'arrivée. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'absolu échappe à l'infini. Parce que s'il y a un infini, il peut y avoir plusieurs infinis. Vous comprenez la nuance? Or, l'absolu ne peut être que seul. Bon, ce en quoi on verra qu'il y a un paradoxe. Mais bon, chaque chose en son temps.
Vous avez parlé d'invocation et vocation. Est-ce qu'on peut trouver une relation avec la respiration? Parce que vous avez parlé de respiration, dans l'inspiration et expiration.
J'ai évoqué la concordance avec la respiration physique. Ah, bah, dans le, au début, j'ai bien expliqué que notre respiration physique, hein, vous avez un intermède, un inspire, intermède, expire. Mais si vous décomposez votre respiration, vous allez avoir ces quatre temps. Alors, ce qu'il faut savoir, si vous voulez, c'est que dans l'invocation, vous allez avoir une montée sur un des plans de conscience, selon votre, je dirais, niveau de réalisation. Vous marquez un palier où là, en fait, c'est comme si vous alliez présenter vos mains pour recevoir. L'évocation, eh bien, en fonction de la qualité de l'essence que vous présentez, énergétique, vous aurez une évocation. Et cette évocation, vous allez la faire redescendre sur les plans inférieurs et notamment jusqu'au plan terrestre. Et là, vous aurez à nouveau un intermède, c'est-à-dire que vous donnez. Il faut bien comprendre que nous effectuons en fait un mécanisme technique. Et c'est en cela, si vous voulez, que nous nous offrons comme canal. Donc tout va reposer sur la qualité de notre invocation. Parce que vous allez cueillir ce que vous demandez. Là, nous sommes dans tout ce qui est activité de groupe. Puis nous passons en activité de l'un. Nous verrons, si vous voulez, que dans ces mondes de manifestation, sur le plan monadique, vous avez l'âme de l'homme céleste. Sur le plan atmique, vous avez son corps mental. Sur le plan bouddhique, vous avez son corps astral. Donc, nous allons chercher l'énergie de transformation de ce monde. Il faut bien, si vous voulez, progressivement découvrir quel est le travail que nous effectuons. Au fur et à mesure que chacun de nous clarifie ses mondes, bien, il lui est donné de progresser. Dans ce processus de marche spirituelle puis divine dans notre évolution, eh bien, nous effectuons un mode de réalisation où nous faisons descendre des vies énergétiques de haute qualité jusqu'au plan terrestre. En d'autres termes, nous élevons la terre au ciel et le ciel descend sur la terre, pour parler en termes symboliques. Dans le processus de l'ensemble, chaque globe est en fait une accumulation de pensées. Tout est pensée concrétisée. Je répète, c'est essentiel, pensez le vrai, pensez le beau, pensez le bien, pensez le pur, et vous écrivez les mondes futurs dans lesquels vous serez. Bah oui, on est un peu maso, hein, surtout. La terre est dure à vivre. Attendez, 6 milliards d'individus qui font pipi dans le bocal en permanence. Ah oui, c'est ça la réalité. Ce qui veut dire en fait que en permanence, nous sélectionnons des vies mineures qui constituent nos corps. Et vous voyez bien que la difficulté, c'est en fait d'éliminer ce qui encore, dans tel ou tel domaine, pèse et nous plombe dans notre travail de lumière. Bon, on va regarder le document, mais je tenais, si vous voulez, à ce que vous voyez bien, en fait, ce que nous effectuons quand nous allons à nous élever intérieurement. Alors, avant d'aller dedans, je vous rappelle que notre corps énergétique a 7 centres principaux, le centre de la tête, le centre ajna, le centre de la gorge, le centre du cœur, le plexus solaire, le centre sacré et le centre basal. Et chacun de ces centres nous relie en fait à un plan subtil, sur lequel nous avons un corps, donc un monde, en épanouissement. Quelle est la difficulté pour un être qui progresse dans le cinquième règne? Eh bien que selon sa progression, le corps mental supérieur, ou le corps bouddhique, christique, ou le corps atmique, n'est pas encore pleinement développé comme en son temps il a eu à édifier son corps physique, puis son corps émotionnel, puis son corps mental concret. Donc si vous avez des blancs, des lacunes, eh bien sachez que c'est en fait lié au stade de réalisation de votre corps supérieur, mais le travail effectué, eh bien, est là justement pour lui permettre de prendre du volume. Hein, soyez pas étonnés. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'une des tâches de l'instructeur, c'est de revenir sur tel ou tel sujet régulièrement, mais en passant pas par la même porte ou la même fenêtre, pour que justement ça présente un éclairage différent du... Vous avez ce qui est la démarche vis-à-vis du plan de la volonté divine, nous tendons à un pont de lumière. Notre foyer de conscience est donc dans la tête, puisque c'est ce qui nous relie au plan atmique, et c'est vers le centre planétaire de la tête que nous tendons, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément la maison du Père ou Sambala. C'est pour vous montrer que ce que vous évoquez en pensée crée le lien. L'homme est, en tant qu'être, est fondamentalement télépathe. Le fait qu'il pense à un être ou à un centre d'énergie, il crée un pont de liaison. Pour invoquer, accueillir, rayonner cette énergie ensemble, nous disons du point de lumière, je suppose que les uns les autres, vous connaissez la grande invocation.
Hein?
Et puis vous avez à la fin du Notre Père, qui est ce que le Christ a donné pour justement effectuer ce pont vis-à-vis de la maison du Père, en vous rappelant qu'il a, donné en fait 12 commandements. Hein. Enfin, Moïse a donné les 10 et le Christ a ajouté 2 commandements, le 11e étant « Aimez-vous les uns les autres » et le 12e étant « Que la volonté du Père soit faite sur la terre ». Nous portons notre foyer de conscience dans le cœur, c'est-à-dire que là, ça va s'adresser au plan bouddhique. C'est vers le centre planétaire du cœur, c'est-à-dire la hiérarchie de lumière, que nous tendons maintenant. Alors là, cela concerne, si vous voulez, la hiérarchie de lumière dont chef est Maitreya. La concentration soutenue est la méditation. La méditation n'est que l'extension de la concentration et née de la facilité avec laquelle l'homme peut fixer le mental à volonté sur quelque objet particulier. C'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois, au sens où quand quelqu'un déroule un sujet, travaille sur un sujet, en fait, il effectue ce processus naturel de réflexion qu'on appelle méditation. Ce terme prend son sens supérieur quand il a un alignement à l'intérieur vertical et non plus sur ce qui est le monde de l'expérience humaine. Elle obéit aux mêmes règles et conditions que la concentration et la seule différence entre elles réside dans l'élément temps. La méditation est la seule voie qui donne à la lumière du pur esprit, c'est le sentier direct pour rejoindre le Père. En fait, c'est ce qui est évoqué, si vous voulez, dans le fait qu'en nous, il y a la vie, que l'on peut appeler en termes religieux Dieu immanent, et nous sommes contenus dans un plus grand ensemble, donc le corps de manifestation d'une vie céleste, Dieu transcendant. Et ce processus de méditation, eh bien, c'est un processus naturel qui soutient cette marche pour s'identifier au Père. Il faut sortir, si vous voulez, d'idées reçues religieuses comme quoi tout est inaccessible puisqu'il n'y a qu'un seul fils unique. La prière, lorsqu'elle est détachée de toute relation avec le soi séparé, est un moyen puissant d'établir et de maintenir de justes relations humaines et spirituelles. Elle doit être faite en tant qu'unité de groupe. À ce moment-là, elle devient méditation.